Suivez Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous accompagne où que vous soyez pour que 2020 soit une excellente année. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler du pancréas, cet organe du système digestif dont le fonctionnement n'a été compris qu'assez tardivement dans l'histoire de la médecine. Le pancréas qui sécrète l'insuline participe à la digestion, neutralise l'acidité, un organe de petite taille, quelques dizaines de grammes enfoui dans l'abdomen, entre l'estomac et la colonne vertébrale. Cette localisation le rend presque inaccessible à la palpation et complique les explorations pour le visualiser. Le pancréas, organe profond, petit, encore mal connu, ce qui ne l'empêche pas d'être craint, car les maladies qui lui sont associées ont mauvaise réputation et pour cause. En particulier, le cancer du pancréas, dixième en termes de fréquence, mais au deuxième rang des causes de mortalité par cancer. Au cours de l'émission, nous allons donc essayer de mieux comprendre son fonctionnement. Quels sont les moyens les plus simples et efficaces pour poser un diagnostic? Bien sûr, expliquer quelles sont les principales maladies liées à cet organe digestif. Diabète, pancréatite, cancer. Nous attendons toutes vos questions sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 84 22 75 75. Maladie du pancréas au pluriel, c'est le titre du livre que vous avez signé aux éditions Méditexte Éditions. Professeur Philippe Lévy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue, chef du service de pancréatologie à l'hôpital Beaujoin à Clichy en région parisienne et professeur des universités. Nous entendrons un témoignage, celui de Michel Walsh, patient de 65 ans atteint et opéré avec succès d'un cancer du pancréas. Nous retrouverons en ligne du Gabon le professeur Jean-Baptiste Moussavou Kombila, chef du service d'hépato-gastro-entérologie au CHU de Libreville. Et puis en fin d'émission, on va parler de la journée médicale sur les défis médicaux au Sahel. Palu, méningite, malnutrition, organisée par Niamey, hein, avec le professeur Yaboum II, professeur de microbiologie, lui qui représente l'Afrique à Épicentre, ce centre dédié à l'expertise épidémiologique en appui à Médecins Sans Frontières.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Philippe Lévy, une émission complète donc pour parler du pancréas, mieux comprendre les maladies qui touchent cet élément clé du système digestif. Professeur Lévy, le pancréas au cœur de votre spécialité, comment est-ce que vous expliquez, alors que cet organe vous occupe, vous, depuis des dizaines d'années, que finalement le grand public en sache si peu sur ce fameux pancréas ?
Parce que ce sont malgré tout des maladies qui ne sont pas si fréquentes que ça, même si la fréquence de certaines augmente sensiblement ces dernières années. C'est pas un organe grand public, on va dire. Et d'ailleurs, mon service, c'est le seul service en France totalement dédié aux maladies pancréatiques. C'est-à-dire, si c'est pas très fréquent, les autres étant pris en charge dans des services de gastro-entérologie classiques.
Alors, vous dites pas si fréquent, mais quand même, quand on pense pancréas, on pense diabète. Pour le coup, c'est une maladie fréquente et de plus en plus fréquente.
Oui, mais il y a trois types de diabète, on va dire. Il y a le diabète de type 1, qui est en fait pas vraiment une maladie pancréatique, c'est une maladie auto-immune. Le diabète de type 2, en fait, le pancréas fonctionne normalement, peut-être même plus que normalement, mais c'est lié à une insuffisance de fonctionnement de l'insuline en périphérie, c'est-à-dire au niveau des muscles, au niveau des tissus adipeux. Le pancréas n'est pas en cause, hein, c'est le diabète des obèses. Et puis enfin, le diabète de type 3, qui est vraiment le diabète d'origine pancréatique, lié soit aux pancréatites chroniques, qu'on en reparlera sans doute, soit aux résections pancréatiques, quand on enlève le pancréas pour une raison ou pour une autre.
Alors justement, peut-être rétablir cette chose, c'est que pour le grand public, pancréas égale insuline, mais on va dire c'est loin d'être tout. Le pancréas, c'est bien plus que la sécrétion d'insuline. Cette fonction, justement, pour réguler le taux de sucre dans le sang.
Absolument. Donc, en fait, le pancréas sécrète deux hormones, l'insuline et le glucagon. L'insuline fait baisser le sucre et fait stocker les aliments au niveau du foie et des tissus graisseux. Et le glucagon fait monter le taux de sucre dans le sang et libère l'énergie contenue dans les muscles, la graisse et le foie. Et la deuxième fonction du pancréas, donc, c'est une fonction digestive, puisque le pancréas sécrète un liquide qu'on appelle le suc pancréatique, qui est déversé en même temps que la bile directement dans l'intestin, juste à la sortie de l'estomac. Et ce suc pancréatique a deux fonctions. La première, c'est de neutraliser l'acidité de l'estomac, qui sinon entraînerait des perforations de l'intestin. Et la deuxième fonction, c'est une fonction purement digestive. C'est un cocktail enzymatique qui va digérer les sucres, les protéines et surtout les graisses, puisque le pancréas est le seul organe qui est capable de digérer les graisses. Les protéines peuvent être digérées par l'intestin, les sucres par l'intestin et la salive, alors que les graisses ne sont digérées que par le suc pancréatique.
Alors, parmi les explications pour parler du pancréas, cet inconnu, justement, le fait qu'il soit caché dans le corps, on dit un organe profond. Qu'est-ce que ça signifie, professeur Lévy ?
Alors, en fait, je citerai un chirurgien américain connu, comme souvent les Américains font référence à Dieu, et il a dit « Pourquoi Dieu a-t-il mis le pancréas si profondément dans le ventre ?» pour que les chirurgiens ne jouent pas avec. Voilà. Donc le pancréas, en fait, est effectivement extrêmement profond. Il est quasiment moulé sur la colonne vertébrale.
Est-ce que ça veut dire que c'est pour le meilleur et pour le pire ? Ça veut dire aussi pour le protéger ?
Tous les organes importants doivent être protégés. Je ne sais pas pourquoi l'évolution naturelle a mis le pancréas à cet endroit-là, mais le fait est qu'il est derrière l'estomac et qu'il est quasiment impalpable, contrairement au foie qu'on peut palper avec ses mains, évidemment l'intestin qu'on peut aussi percevoir. Le pancréas, sauf énorme tumeur, on ne peut pas le palper avec ses mains.
Alors, autant certains organes, hein, par exemple, on pense aux reins, souffrent en silence. Professeur Philippe Lévy, c'est pas le cas pour le pancréas. En cas de dysfonctionnement, c'est quelque chose qui est souligné. La douleur, c'est vraiment un symptôme majeur.
Alors, c'est pas tellement un signe de dysfonctionnement. Les signes de dysfonctionnement pancréatique, c'est le diabète d'un côté et la diarrhée graisseuse de l'autre. Mais la douleur fait partie intégrante des symptômes pancréatiques quand il y a soit une tumeur maligne le plus souvent, soit une inflammation, ce qu'on appelle les pancréatites. Et le fait est que la douleur pancréatique fait partie des plus intense qu'on puisse connaître. C'est une douleur qui est très profonde, qui est au creux de l'estomac, qui est assez haut situé. C'est vraiment au bas du thorax. Et quand on a une pancréatite ou un cancer du pancréas, on peut avoir extrêmement mal. Et donc, on a recours assez facilement aux antalgiques de niveau 3, c'est-à-dire aux morphiniques.
Ça veut dire qu'on a tellement mal, par exemple, que ça nous empêche de manger, ce qui explique la perte de poids ? Est-ce que c'est lié directement à cette douleur, à la perte de poids qu'on observe en cas de maladie du pancréas, ou c'est lié à quelque chose d'autre dans le fonctionnement de l'organisme ?
Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut là encore séparer les maladies tumorales et les maladies inflammatoires. Dans le cancer du pancréas, qui est donc la maladie tumorale la plus fréquente, certes on a mal, mais le cancer du pancréas sécrète des pseudo-hormones, on va dire, qui coupent l'appétit et qui entraînent une cachexie, c'est-à-dire qui mobilisent toutes les réserves énergétiques du corps. Et donc, c'est pour ça qu'entre guillemets, on fond quand on a, un cancer du pancréas. Dans les inflammations pancréatiques, donc dans la pancréatite, oui, effectivement, on a mal. Et oui, le fait de manger peut aggraver cette douleur. Et donc, par réflexe, évidemment, on évite on s'alimente beaucoup moins.
En tout cas, on retient cette perte de poids comme un signal auquel il faut être particulièrement attentif.
Absolument, c'est un signe majeur. Ça peut être même le premier signe du cancer du pancréas.
Alors, il peut y avoir un doute. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau de l'examen ? Tout à l'heure, vous disiez palpation quasi impossible compte tenu du caractère enfoui de cet organe. Une fois qu'il y a un doute, perte de poids, des douleurs dans le creux du ventre, hein, simplement pour décrire la douleur, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, le pancréas est un... Enfin, les maladies pancréatiques, d'ailleurs, sont connues depuis peu parce qu'elles ont totalement bénéficié des nouvelles techniques d'imagerie. En particulier, moi, quand j'ai commencé mes études, il n'y avait pas d'échographie. Ensuite, le scanner est arrivé dans les années 90, puis l'IRM. Et c'est grâce à ces deux derniers examens qu'on a connu et mieux décrit et mieux compris les maladies pancréatiques. Et en fait, l'examen roi pour découvrir une maladie pancréatique et en faire le diagnostic, c'est le scanner. Il y a des éléments biologiques, par exemple, si on a des douleurs, il y a des prélèvements sanguins qui permettent d'orienter vers le pancréas, mais l'examen d'imagerie clé, c'est le scanner.
C'est pas comme pour d'autres maladies où un contrôle sanguin va cibler directement une pathologie. Là, il va falloir recourir à l'imagerie.
Oui, la plupart du temps.
Alors, on va aborder tout à l'heure les différentes pathologies. On l'a déjà esquissé avec, en citant bien sûr les noms de pancréatite et de cancer du pancréas, toutes ces maladies qui concernent cet organe digestif. Tout de suite, un témoignage. Alors, ce témoignage, c'est le vôtre. Michel Valche, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous allons parler de votre expérience face à la maladie. Cette maladie, c'est donc un cancer du pancréas. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances vous avez pris connaissance de ce diagnostic ?
Entre les premiers symptômes, on va dire, donc non diagnostiqués, et puis le diagnostic final, c'est écoulé à peu près 5 mois. J'avais des examens divers et variés, hein, donc je vous fais grâce, les échographies, les scanners, les IRM, les fibroscopies de l'intestin, de l'estomac, du pancréas. Donc sans résultat à chaque fois les biopsies. Donc la personne que j'avais consultée m'a orienté vers l'hôpital Beaujon, donc le professeur Lévy, qui m'a fait refaire un scanner et un IRM à ce moment-là. Et il s'est aperçu qu'en fait, il y avait non pas une, mais 2 tumeurs dans le pancréas. Donc, refibroscopie pour aller voir dans le pancréas cette 2e tumeur. Reprélèvement, rebiopsie. Et là, diagnostic, donc cancer du pancréas. Donc, si vous voulez, entre le début où j'ai commencé à consulter et puis le diagnostic final du professeur Lévy, s'est écoulé à peu près 5 mois.
Michel Fall, justement, ce problème, c'était quoi ? Tout à l'heure, rapidement, vous avez évoqué ces symptômes qui vous avaient poussé à consulter. C'était quoi ces signes ?
Absence d'appétit.
Du jour au lendemain, plus envie de manger ?
Plus envie, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours d'affilée, ne rien avaler. C'est-à-dire que, bon, je ne me forçais pas non plus, hein, parce que le diagnostic n'était pas fait. J'étais pas franchement maigre, donc je veux dire, s'il fallait perdre 1 ou 2 kilos, c'était pas vraiment un problème majeur. Mais bon, quand ça dure un peu longtemps, quand même, on se demande ce qui se passe. Donc j'ai été voir mon médecin traitant, donc qui a fait quelques examens dont on a parlé, qui n'ont rien donné. Donc j'étais voir un spécialiste du tube digestif, donc poursuite des examens, qui n'ont rien donné non plus. Et donc c'est à ce moment-là qu'on m'a orienté vers le professeur Lévy à Beaujon.
Alors, vous disiez 5 mois d'examen, de questions, et puis ce verdict du cancer du pancréas. Comment est-ce que vous avez accueilli l'annonce ?
Bah, vous savez, c'est pas un bras cassé, c'est pas le genre de diagnostic qu'on entend très facilement.
Justement, quand on vous dit cancer du pancréas, et même qu'on vous parle de cet organe, le pancréas, dont on parle finalement assez peu souvent tant qu'on n'est pas malade, est-ce que vous saviez ce que ça impliquait, tant pour votre organisme que pour votre futur ?
Bah, de toute façon, un cancer, c'est toujours grave, hein. Je veux dire, c'est un bon, oui, il a la très mauvaise réputation, mais bon, à la limite, qu'il soit au pancréas, au poumon ou ailleurs, je veux dire, ça n'a pas changé fondamentalement la façon dont j'ai perçu le diagnostic, si vous voulez, un grand coup de massue sur la tête, quelque part.
Et les traitements ont commencé combien de temps après ce diagnostic, Michel Valche ?
Ah, après, ça s'est enclenché très, très, très vite, parce que le diagnostic a été fait fin août 2018 et début septembre, on commençait.
Très rapidement, ça s'enchaîne avec quoi comme traitement ?
Premièrement, une chimiothérapie pendant 3 mois, à raison d'une fois tous les 15 jours. Et puis derrière, chimiothérapie pendant 1 mois et demi. Et là, c'est tous les jours. Et puis après, bon, alors bien sûr, hein, les scanners, IRM de contrôle à chaque fois, bien sûr. Et comme le résultat était plutôt bon, le professeur Lévy a décidé de me faire opérer, parce que c'est pas lui qui l'a fait physiquement, bien sûr. L'opération, a priori, s'est bien passée, donc je suis resté là un petit peu à l'hôpital, le temps que je me remette un peu d'aplomb, on va dire. Donc, à la suite de sa nouvelle chimiothérapie, donc de juillet à septembre, au cas où il resterait une métastase quelque part dans un coin qu'on n'aurait pas vu, aux examens scanner IRM, donc toujours le résultat satisfaisant, on va dire. Et puis depuis, on me laisse tranquille, entre guillemets.
Et physiquement, à part ce pancréas, comment est-ce que vous vous portez ?
Ah ben, les effets secondaires, c'est clair qu'il y en a pas mal. Hein. Je veux dire, l'appétit ne pose plus trop de problèmes, mais bon, je suis très fatigué tout le temps, hein, ça c'est clair. J'ai des très fortes diarrhées. Et donc j'ai perdu plus de 20 kilos, mais je pense que c'est lié à ces diarrhées. Enfin bon, le fait est que je les ai quand même perdus. J'ai des difficultés pour marcher, donc des pertes d'équilibre, donc je suis tombé plusieurs fois dans la rue. Donc on va dire que dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours très facile à gérer, quoi.
Et maintenant, pour vous, Michel Walsh, c'est quoi la prochaine étape ?
Ah ben maintenant, la prochaine étape, elle va durer 10 ans, puisque il va y avoir un contrôle tous les 4 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois pendant 3 ans, puis tous les ans pendant 5 ans. Et on est déclaré guéri, si j'ai bien compris, qu'au bout de cet échéancier, donc au bout de 10 ans, ce qui est quand même pas demain soir.
Voilà pour ce témoignage de ce patient, Michel Walsh, qui garde une certaine énergie après avoir été confronté, on l'a entendu, à un certain nombre d'épreuves, chimiothérapie, radiothérapie, opération, maintenant le suivi après ce cancer du pancréas. Professeur Philippe Lévy, peut-être une réaction après ce témoignage ?
D'abord, je me rends compte qu'il a parfaitement bien compris tout le processus du traitement qu'on lui a proposé. Je voudrais insister sur le retard diagnostique initial qui est malheureusement extrêmement fréquent pour plusieurs raisons. D'abord parce que les symptômes ne sont pas spécifiques. Donc les douleurs peuvent être liées effectivement à un ulcère de l'estomac, à un problème vasculaire ou à un problème biliaire. L'amaigrissement, ça peut évidemment avoir beaucoup d'autres causes que le cancer du pancréas. Et deuxièmement, les signes radiologiques ne sont pas toujours très bien connus et en tout cas, comme ce sont malgré tout des maladies rares, les radiologues n'y pensent pas toujours et donc ça passe parfois inaperçu. Et malheureusement, on a assez souvent à ma consultation des malades dont le diagnostic aurait pu, sinon aurait dû être fait des mois, voire parfois des années plus tôt. Un simple exemple, dans une maladie très particulière dont on reparlera peut-être, qui est la pancréatite héréditaire, le retard diagnostique chez les enfants en moyenne est de 9 ans.
Ouais.
Donc ça veut dire que pendant 9 ans, les enfants ont souffert sans que l'on pense à une maladie pancréatique. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que effectivement, comme l'a bien souligné Monsieur Walsh, que je remercie d'avoir accepté d'être interviewé, c'est que entre le diagnostic d'un cancer du pancréas et la fin du traitement, pour les malades qui peuvent être opérés, il s'écoule un an. Un an de traitement lourd est difficile, et avec à chaque fois des étapes au moment desquelles on peut dire « stop, on arrête parce que l'évolution n'est pas favorable » ou « ok, on passe à l'étape suivante parce que c'est bien, c'est bon ». Et donc ça génère évidemment, au-delà de l'annonce du diagnostic, une angoisse à long terme qui est parfois très difficile à gérer, et c'est notre rôle, je pense aussi, bien évidemment, d'aider les patients à la prendre en charge.
D'ailleurs, vous le reconnaissez dans votre livre, hein, vous dites « la mauvaise réputation, ce cancer, l'adénocarcinome, hein, c'est le nom scientifique, et c'est en partie fondé ». Au niveau des observations aujourd'hui de l'épidémiologie, on va dire que ce cancer, il est de plus en plus fréquent, et il reste, en termes de morbidité, de mortalité associée, toujours aussi redoutable, voire même par rapport aux progrès qui sont enregistrés pour la prise en charge des autres cancers, on va dire qu'on meurt toujours plus de ce cancer du pancréas, même si paradoxalement, il y a des progrès.
Absolument. Donc la première chose, c'est la fréquence du cancer du pancréas. Il y a une grande étude épidémiologique qui a été publiée il y a 2 ou 3 ans, française, qui a montré que chez les femmes, en 30 ans, la fréquence du cancer du pancréas avait triplé et chez les hommes avait doublé. Les raisons de ça sont le tabagisme, l'obésité. Il y a des pistes sur les pesticides, mais qui ne sont pas démontrées encore aujourd'hui, donc je n'en ferai pas plus état à ce micro. Voilà les pistes qu'on cherche. La deuxième chose, c'est que au jour d'aujourd'hui, quand on diagnostique un cancer du pancréas, on en opère à peu près 10 à 15%. C'est exactement le même pourcentage qu'il y a 20 ans. Donc on n'a pas fait de progrès aujourd'hui par rapport à...
Ça veut dire que les personnes qui ne sont pas opérées, ça veut dire que le pronostic vital n'est pas bon ?
Ça veut dire que le pronostic, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à les guérir. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, un cancer du pancréas, la seule chance de le guérir est de l'opérer, mais il faut l'opérer dans de bonnes conditions.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que quand on a un diagnostic, on a 9 risques sur 10 de décéder de ce cancer.
Absolument. Absolument.
Donc c'est énorme, on va dire que c'est l'un des cancers les plus mortels.
Alors c'est en train, en ce moment même, de devenir la deuxième cause de mortalité par cancer.
Oui, mais compte tenu de la fréquence beaucoup plus importante du cancer du poumon, on peut dire qu'en termes de risque, c'est le cancer le plus mortel. Parce qu'il y a davantage de cancers en termes numéraires, il y a davantage de cancers du poumon.
Oui, il y a davantage de cancers du poumon, et c'est pour ça que le poumon reste le seul qui est plus létal que le cancer du pancréas. Mais le cancer du pancréas est en train de doubler, pardonnez-moi l'expression, les cancers du côlon, les cancers du sein, les cancers de la prostate, qui sont de mieux en mieux traités. Et en termes de traitement, malheureusement, toutes les thérapies qui ont apporté des progrès formidables dans d'autres cancers, comme les thérapies ciblées, l'immunothérapie, ne fonctionnent pas ou très mal ou dans des sous-groupes très précis et très restreints de cancers du pancréas.
Mais la recherche s'y intéresse quand même en ce moment, professeur Lévy.
Énormément, parce que pour des raisons épidémiologiques, ça devient un cancer très fréquent. Et donc l'industrie s'y intéresse, donc y met les moyens, etc.
On va vous retrouver dans quelques instants. On va prendre un auditeur en ligne, hein, un auditeur qui nous appelle d'Afrique de l'Ouest. Et c'est vous qui êtes en ligne, Sakoulba, bonjour.
Bonjour Caroline.
En ligne du Burkina Faso, de la ville de Banfora. On vous écoute, le professeur Lévy vous écoute pour votre question.
Ok, bonjour professeur Lévy.
Bonjour.
Voilà, il y a de cela 6 mois, moi j'ai été contrôlé positif du diabète.
Mm-hmm.
Maintenant, je m'interrogeais pour savoir si...
Sakoulba, il y a une coupure de ligne. Je vais vous demander juste de répéter ce que vous venez de dire. Hein. Excusez-nous, mais c'est indépendant de notre volonté, allez-y. Non, la ligne n'est pas mauvaise. Donc, ce que nous disait Sakoulba, c'est qu'il a été diagnostiqué diabétique il y a peu de temps. Et quand on a préparé cette question avec lui un petit peu avant cette émission avec Ophélie Lassen, il a posé cette question. Au niveau de son alimentation, quand on a justement un problème de diabète et son médecin lui avait dit que son pancréas ne sécrétait pas suffisamment d'insuline, qu'est-ce qu'il fallait changer dans son alimentation? Et peut-être une question qu'on va étendre avec une autre interrogation là qui nous vient de Charlène à Lubumbashi. Quels sont les aliments à manger, hein, quels sont ceux à éviter pour un bon fonctionnement du pancréas?
Alors, l'alimentation ne modifie pas qualitativement la sécrétion pancréatique, en tout cas pour l'insuline. Quand on est diabétique, il faut faire attention, ça c'est les conseils des diabétologues, c'est un peu en dehors de ma spécialité, mais à ne pas prendre trop de poids, et tous les sucres rapides, les sucreries, les pâtisseries, etc., sont décommandés, sont peu recommandés, mais ça ne modifie pas la sécrétion d'insuline. La sécrétion d'insuline, elle marche ou elle ne marche pas. Pour votre question plus élargie, il n'y a pas non plus d'aliments qui sont particulièrement toxiques pour le pancréas. La seule chose qu'on peut prendre par la bouche, si j'ose dire, et qu'il faut éviter, c'est l'alcool.
Mm-hmm.
L'alcool, donc en grande quantité, hein, pour avoir une pancréatite d'origine alcoolique, il faut boire 10 à 15 verres par jour pendant 10 à 15 ans. Autrement dit, par exemple, une ivresse aiguë ne provoque pas une pancréatite, mais un alcoolisme chronique et abondant, hein, 10 verres par jour, c'est assez considérable. C'est ça qui va provoquer une pancréatite. Et il faut aussi rajouter que parmi les gens qui ont une telle consommation d'alcool, il n'y en a que 5% qui vont développer une pancréatite en rapport avec l'alcool. Les autres n'auront pas de maladie pancréatique. Il y a probablement, enfin même certainement, un substratum génétique qui explique la raison pour laquelle certaines personnes qui ont une consommation d'alcool excessive vont développer une pancréatite et d'autres non.
On va vous retrouver dans quelques instants, professeur Lévy. On marque une petite pause musicale tout de suite avec Grégory Porter, Revival.
I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down. When you lift me high up out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival,
revival,
revival song,
revival.
I'm singing revival,
revival,
revival song,
revival.
I try to find you.
lost my way. Walked in the darkness in search of day.
Nous nous retrouvons notre thème du jour après Grégory Porter dans Priorité Santé. C'est le pancréas. On explore ces différentes pathologies qui atteignent cet organe du système digestif. Toujours avec nous, professeur Philippe Lévy, gastro-entérologue, pancréatologue. Alors, on parle maintenant de ces pancréatites au pluriel. Il existe plusieurs formes de cette pathologie.
Il existe surtout plusieurs causes. Les deux grandes causes, en tout cas en Occident, sont, comme on vient de le dire, la consommation excessive et prolongée d'alcool. La deuxième cause, c'est les calculs biliaires, donc des calculs dans la vésicule, comme des petits cailloux, qui vont migrer dans la voie biliaire, et la voie biliaire rejoint le canal pancréatique. Et quand ces calculs se coincent, ça provoque une pancréatite. Donc ces deux causes représentent chacune 40%, donc 80% pour L2. Après, il y a des causes beaucoup plus rares, des pancréatites d'origine obstructive. Par exemple, s'il y a une tumeur, ça peut se révéler par une pancréatite en amont. Des causes génétiques qui se révèlent la plupart du temps avant 30 ans, voire dans l'enfance. Des pancréatites auto-immunes, des pancréatites parasitaires, des pancréatites traumatiques. Quand on a un accident de la route, ça peut contusionner le pancréas et entraîner une pancréatite. Et pour les différents types dont vous venez de parler, il y a des différents types de gravité. Il y a des pancréatites aiguës qui sont bénignes, qui vont se résoudre en quelques jours, et si on supprime la cause, dans la plupart des cas, elles vont guérir. Des pancréatites plus sévères, nécrosantes, où le pancréas se nécrose, et aussi les tissus avoisinants. Et puis, il y a ce qu'on appelle la pancréatite chronique, qui est liée à la répétition des pancréatites aiguës, qui va aboutir à une destruction progressive du pancréas.
Dans les différents cas, professeur Lévy, la douleur encore comme signal d'appel?
Oui, dans la pancréatite, sauf vraiment exception rarissime, c'est la douleur qui est le symptôme majeur de cette maladie. Et c'est la même douleur que le cancer du pancréas, c'est au creux de l'estomac, ça débute assez rapidement et ça peut devenir extrêmement intense. Généralement, quand on a une pancréatite, on n'hésite pas à aller à l'hôpital, on s'y rend à 2h du matin s'il le faut.
Ça veut dire que si on est atteint d'une pancréatite chronique avec à la clé une hospitalisation au long cours, professeur Philippe Lévy, ça veut dire qu'on va être sous antalgique, par exemple sous morphine pendant des mois et des mois?
Alors, les pancréatites aiguës, on est sous antalgique, parfois morphinique, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les pancréatites chroniques, c'est très compliqué. Le mécanisme de la douleur au cours de la pancréatite chronique est très complexe. Il fait appel à l'inflammation, à l'hypoxie, donc le manque d'oxygène dans le pancréas, à l'hyperpression dans les canaux pancréatiques, et aussi à des lésions des nerfs péripancréatiques. Il y a beaucoup de nerfs sensitifs autour du pancréas. C'est pour ça d'ailleurs que cette maladie est douloureuse. Et ces nerfs sont lésés par l'inflammation chronique et peuvent générer des douleurs de façon quasiment autonome. Et en fait, aujourd'hui, il y a la pharmacopée des antalgiques s'est beaucoup complexifiée. Il y a les antalgiques comme le paracétamol au niveau 1, le tramadol pour citer un exemple de niveau 2, et les morphiniques. Et puis il y a ce qu'on appelle les antalgiques à visée neuropathique qui agissent sur cette composante.
Qui ciblent différemment.
Voilà.
Alors, quand on parle bien sûr de la santé des organes, hein, cœur, rein, foie, professeur Philippe Lévy, on aborde la question de la greffe, même si dans une grande partie du monde, eh bien, ces transplantations ne sont pas forcément accessibles. Malgré tout, dans d'autres régions, c'est quelque chose de possible. Qu'est-ce qu'il en est pour le pancréas? Est-ce qu'une transplantation est possible? Il y a cette question de Youssouf, hein, qui est au Cameroun, à Maroua. Justement, lui, il fait le lien, encore une fois, avec le diabète, la carence en insuline chez le diabétique. Est-ce que c'est possible de réaliser une greffe du pancréas? Si la greffe est possible, est-ce qu'après, cet organe se régénère comme le foie?
Alors non, le pancréas ne se régénère pas comme le foie. C'est d'ailleurs pour ça que dans la pancréatite chronique, il se détruit progressivement. Pour ce qui est de la greffe, alors on va être clair, il y a la sécrétion digestive qui ne fait jamais l'objet d'une greffe parce qu'on peut la compenser très simplement avec des comprimés par la bouche qui remplacent la fonction enzymatique du pancréas. Donc on ne va pas imposer à un malade une transplantation pour cette fonction-là. Pour la fonction endocrine, donc la sécrétion d'insuline, on peut greffer soit des cellules qu'on appelle les îlots de Langerhans, qui vont sécréter de l'insuline. Et en fait, c'est pas une greffe d'un organe, on les injecte soit dans le foie, soit sous la peau. C'est pas encore tout à fait au point, et c'est réservé généralement aux diabétiques très mal équilibrés qui n'arrivent pas à se traiter avec de l'insuline, qui ont des complications du diabète.
Des injections régulières ou une injection une fois pour toutes ?
Ah non, une injection une fois pour toutes.
Ah, une fois pour toutes.
Parfois on greffe l'organe entier, enfin en tout cas une partie de l'organe, on le greffe sur la vessie. Pourquoi sur la vessie ? Parce qu'il faut justement que la sécrétion du sucre pancréatique aille quelque part et on peut pas le mettre dans l'intestin. Donc ça s'écoule dans les urines, ça n'a aucune importance. Et le petit morceau de pancréas va sécréter dans le sang de l'insuline. Mais il faut bien comprendre que si on est bien équilibré, si on a un diabète bien équilibré et facilement équilibré avec de l'insuline, c'est beaucoup plus simple de s'injecter une, deux ou trois fois d'insuline par jour, même si c'est évidemment contraignant, que de prendre un traitement immunosuppresseur à vie pour préserver le greffon. Et en plus, ça ne marche pas parfaitement bien.
Mais justement, est-ce qu'il y a une forme de hiérarchie dans la complexité de la greffe, en particulier quand on est sur le système digestif ? Est-ce qu'il y a des organes plus faciles ? C'est un peu trivial comme question, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il y a des organes qui sont plus faciles que d'autres à greffer et pour le corps plus faciles à tolérer ?
Alors ça, honnêtement, il faudrait demander aux transplanteurs, mais d'après ce que je sais, je pense que la greffe du rein est probablement la transplantation la plus facile aujourd'hui.
En tout cas, aujourd'hui. Bien
plus fréquente. Voilà, plus fréquente et la plus facile à faire, y compris techniquement. Je pense que la greffe du foie commence à être au point, mais c'est quand même une chirurgie majeure et chez des gens qui sont extrêmement fragiles. La greffe de l'intestin se développe, mais elle est encore très très loin d'être au point aujourd'hui. Et la greffe cardiaque, c'est historiquement la première qu'on a faite, mais ça reste encore une intervention considérable. On peut aussi faire des greffes de poumons, hein, mais là aussi, c'est des transplantations qui sont très difficiles.
Alors, là aussi, c'est une question de vocabulaire, parce qu'on commence à en entendre parler de plus en plus. Quand on parle de pancréas artificiel pour les patients diabétiques de type 1, de quoi s'agit-il ? C'est quoi un pancréas artificiel ? On connaît le cœur artificiel, on imagine, on visualise ce que c'est. Un pancréas artificiel, c'est plus compliqué.
Alors là aussi, c'est une question beaucoup plus pour les diabétologues. Mais en fait, le pancréas artificiel, c'est tout simplement un système avec d'un côté un capteur qui mesure la glycémie en permanence. Et ça, ça devient très au point, puisque même des diabétiques qui n'ont pas de pancréas artificiel bénéficient maintenant, au niveau du bras, de capteurs qui mesurent en permanence la glycémie avec un rapport sur leur téléphone portable, et c'est assez formidable. Et le pancréas artificiel, en fait, injecte automatiquement de l'insuline en fonction du taux de la glycémie. Donc c'est généralement un petit boîtier sous la peau qui va injecter de l'insuline à la demande.
Alors, question importante, hein, parce qu'on a parlé des différentes causes ou des différentes conditions qui peuvent conduire à certaines pathologies qui concernent le pancréas. Les médicaments, est-ce qu'il y a certains médicaments qui sont néfastes, toxiques pour cet organe ?
Oui, mais c'est très rare, c'est très très rare. Il y a certains antirétroviraux, certaines chimiothérapies utilisées pour les leucémies, mais c'est tout à fait exceptionnel. C'est très souvent marqué sur les notices. En fait, il faut faire attention parce que il y a certains médicaments qui vont élever dans le sang les marqueurs de pancréatite sans aucun symptôme, ce qu'on appelle la lipasémie. En fait, ça n'a strictement aucune importance s'il n'y a pas de manifestation pancréatique. On devrait d'ailleurs ne pas le doser. Et donc, il ne faut surtout pas arrêter un médicament nécessaire sous prétexte que la lipase s'élève dans le sang. Et des médicaments qui provoquent des vraies pancréatites avec douleur, etc., etc., encore une fois, c'est exceptionnel.
Des médicaments, donc, plutôt ce message rassurant. Par contre, il y a certaines maladies, y compris des maladies communes, qui peuvent, je ne sais pas si c'est dégénéré en pancréatite, mais j'ai vu que le virus des oreillons, surtout à l'âge adulte, pouvait avoir des conséquences sur la santé du pancréas. Comment ça se passe ?
Absolument. Le pancréas et les glandes salivaires, qui sont la cible du virus des oreillons, ont des structures très proches et on peut parfaitement avoir, en même temps que les oreillons, une pancréatite. Ça reste là aussi tout à fait exceptionnel. Il y a d'autres infections, la typhoïde, la salmonellose, de façon assez exceptionnelle, peut se compliquer de pancréatite. Et puis il y a des parasites, en particulier des parasites assez fréquents en Asie du Sud-Est, des petits vers qui sont dans l'intestin, notamment des ascaris, qui peuvent remonter dans le canal biliaire, où je vois que ça vous fait
grimacer. Ah non, c'est pas très... il est un peu tôt, mais je suis sûr qu'il n'y a pas d'heure d'ailleurs pour ça.
Donc ils peuvent remonter soit dans la voie biliaire, soit dans le canal pancréatique, les obstruer et entraîner des pancréatites biliaires ou des infections biliaires ou des pancréatites. Et d'ailleurs, les médecins vietnamiens où j'avais été, pour eux, c'est une cause majeure de pancréatite, ou en tout cas, il y a 20 ans, c'était une cause majeure au Vietnam.
Alors, intervenir tôt en cas de maladie du pancréas, on a dit tout à l'heure, compte tenu du caractère profond de cet organe, pas toujours évident de savoir que c'est le pancréas qui est en cause. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, professeur Philippe Lévy, pour en finir, justement, avec la prise en charge tardive?
Alors, il faut d'abord...
Est-ce qu'il faut agir davantage auprès du public, auprès des patients ou auprès des médecins?
Non, je pense qu'il faut, intervenir auprès des médecins. C'est-à-dire que devant une douleur abdominale haute, il faut que le médecin pense au pancréas. Moi, je suis toujours depuis toujours très concerné par la formation médicale continue. Je pense qu'il faut, il faut battre les estrades, rappeler aux pédiatres, aux généralistes, aux gastro-entérologues y compris, que des douleurs épigastriques au creux de l'estomac peuvent être d'origine pancréatique.
Vous soulignez tout à l'heure la singularité de votre service entièrement dédié au pancréas. Face justement aux données épidémiologiques avec une augmentation de la fréquence du cancer du pancréas, est-ce qu'il faut justement former davantage de spécialistes sur cet organe très particulier ?
Je milite depuis des années auprès du Conseil national universitaire pour que dans chaque grande ville universitaire, il y ait au moins un médecin qui soit dédié aux maladies pancréatiques. Ça me paraît essentiel. La prise en charge du cancer du pancréas devient extrêmement spécialisée aujourd'hui, comme toutes les maladies d'ailleurs. Elles sont bien mieux prises en charge par des spécialistes de l'organe que par des gens qui n'y connaissent rien. Et les pancréatites aiguës, c'est quand même la première cause d'admission par les urgences pour une douleur abdominale aiguë. Donc c'est très fréquent. Et là aussi, le traitement s'est complexifié. Donc il faut des gens qui connaissent ces maladies. Donc oui, il faut absolument former des médecins à ces maladies.
Également en termes d'exploration pour justement un meilleur diagnostic par le biais de ces scanners de plus en plus performants.
Absolument. Il arrive malheureusement que les radiologues ne signalent pas une maladie pancréatique qui est pourtant patente parce qu'ils ne voient pas cet organe ou ils ne regardent pas. Et ça génère des retards diagnostiques assez considérables.
Est-ce que vous diriez qu'il y a certaines parties du corps, certaines spécialités qui sont plus attractives que d'autres et qu'aujourd'hui, eh bien, le pancréas, on va dire trivialement, c'est pas très glamour et que ça intéresse pas forcément la médecine ou c'est une vue de l'esprit ?
Non, je pense que c'est en train de changer. Je pense que il y a 15 ans, je vous aurais répondu oui, sans aucun doute. Mais aujourd'hui, c'est en train de s'inverser complètement. D'abord parce qu'on a des explorations qui permettent de beaucoup mieux voir et comprendre ce qui se passe. Et encore une fois, pour des raisons épidémiologiques. Par exemple, j'ai de plus en plus d'internes de province qui me demandent un stage dans mon service pour apprendre les maladies pancréatiques. Donc non, ça devient l'endoscopie aussi, l'endoscopie qu'il faut citer, que ce soit l'endoscopie diagnostique ou l'endoscopie thérapeutique, c'est considérablement développé pour les maladies pancréatiques. Donc ça devient passionnant, même pour des gastro-entérologues qui jusqu'ici ne s'intéressaient pas à cet organe.
La connaissance du grand public, c'est quelque chose qui compte. On dit parfois que le fait que certaines personnes qui ont une certaine célébrité ou une certaine notoriété aient été concernées ou soient décédées des suites de telle ou telle maladie a donné une image plus élargie au grand public. C'est le cas aussi du cancer du pancréas.
Oui, il y a certaines personnes célèbres dont on a connu qui avaient une maladie pancréatique.
Qui en ont fait état publiquement et oui. Qui ont révélé ça de manière un peu à rendre plus connue cette maladie.
Tout à fait. Mais je crois que c'est vraiment le rôle des médecins de penser à cet organe. C'est pas suffisamment fréquent, je pense, pour alerter le grand public. C'est pas comme le cancer du côlon. Tout le monde sait que quand on a du sang dans les selles, il faut aller voir son gastro-entérologue, ou en tout cas son généraliste en premier temps et son gastro-entérologue après. Donc ça, ce sont des maladies fréquentes. Je pense que c'est vraiment un problème d'éducation du corps médical.
Vous parliez tout à l'heure du passage justement par les urgences. Est-ce que ça veut dire, au-delà bien sûr d'une consultation chez un généraliste, professeur Lévy, avec cette douleur aiguë au cœur du ventre, dans l'abdomen, est-ce que ça veut dire que là aussi aux urgences, il doit y avoir un rôle d'orientation, de repérage absolument évident ?
Oui, enfin ça, les
les urgentistes le font déjà.
Oui. Douleur abdominale aiguë, pour un urgentiste, il doit penser au pancréas. Et le dosage des enzymes pancréatiques dans le sang devient quasiment automatique chez quelqu'un qui se présente aux urgences avec un tableau aigu.
Alors, on va conclure justement sur ce cancer du pancréas, sur les avancées et aussi sur les craintes. D'abord, Vous disiez tout à l'heure les facteurs qui peuvent expliquer sa survenue. Est-ce que ça veut dire qu'on peut agir en termes de prévention ?
On n'en est pas là, mais ça va certainement venir. Quand on aura, il y a un facteur de risque qui est très mal connu et qui est essentiel, c'est le tabac. Le tabac est le premier facteur de risque environnemental qui est pour le cancer du pancréas. L'alcool ne l'est pas, ou très peu. Donc ça, oui, s'il y a plus de fumeurs, il y aura moins de cancer du pancréas. L'obésité est certainement aussi un facteur de risque. Voilà pour les facteurs sur lesquels on peut jouer facilement.
On a eu des grandes campagnes en France dans le cadre des plans cancer, de dépistage à grande échelle. On pense bien sûr au cancer du côlon après 50 ans, au cancer du sein chez les femmes avec la multiplication et la fréquence des mammographies. Est-ce que vous êtes favorable, professeur Philippe Lévy, en ce qui concerne le cancer du pancréas, à une forme de systématisation d'un dépistage ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible ?
Non, aujourd'hui, ça n'est pas possible pour deux raisons. La première, c'est qu'un, c'est un cancer, malgré tout, qui reste assez faible en valeur absolue, assez peu fréquent. Deuxièmement, on ne dispose pas d'un examen simple, sanguin ou radiologique, permettant de dépister à un stade utile le cancer du pancréas. Et donc, on ne va pas faire un scanner à tout le monde tous les ans pour chercher ce cancer. Il n'y a pas de marqueur sanguin. Les marqueurs sanguins sont de très mauvaise qualité. Et donc, notre rôle aujourd'hui, c'est un, de trouver un marqueur simple et fiable de cancer du pancréas, et on en est loin, et deux, de mieux définir les groupes à risque dans lesquels ce dépistage aurait un intérêt.
Avec une dimension héréditaire ou pas ?
Il y a à peu près 5% des cancers du pancréas qui sont d'origine héréditaire.
Merci infiniment pour tous ces éclaircissements. On en sait vraiment à la fin de cette émission beaucoup plus sur le pancréas et les pathologies qui concernent cet organe du système digestif. On vous remercie beaucoup, professeur Philippe Lévy. Je rappelle que vous êtes chef du service de pancréatologie, c'est bien cela.
J'aurais après à le dire.
On apprend dans cette émission à l'hôpital Beaujon, à Clichy, gastro-entérologue. Le titre de ce livre pédagogique que vous avez signé chez Méditext Édition, Les maladies du pancréas.
Priorité santé. Sur RFI.
Et nous partons à présent pour Niamey, où se tient aujourd'hui la journée médicale sur les défis médicaux, donc au Niger et au Sahel. En ligne avec nous, professeur Yaboumde, bonjour.
Bonjour Madame Caroline.
Professeur de microbiologie représentant pour l'Afrique d'Épicentre, dédié à l'expertise épidémiologique en appui à Médecins Sans Frontières. Professeur Boum, votre rendez-vous cible trois grandes pathologies dont on parle régulièrement dans cette émission. Ces pathologies qui concernent directement la région sahélienne, paludisme, méningite, malnutrition. Quels sont les temps forts de cette journée ?
Alors, les temps forts de cette journée, au moment où je vous parle, le ministre de la Santé est en train de faire son allocution, et notamment de prendre un engagement beaucoup plus important en termes de gouvernance. Parce que finalement, ces trois pathologies que vous avez citées sont des maladies complexes et qui ne peuvent être réglées que s'il y a un véritable engagement politique. Donc ça, c'est une allocution importante. Et ensuite, nous aurons des sessions sur le palais, la malnutrition et enfin la méningite pour...
La ligne s'est dégradée et là, c'est à même couper. Donc, nous avons perdu le professeur Yaboum. Bien sûr, nous allons essayer de reprendre la ligne et de rejoindre Niamey pour parler davantage, pour revenir sur les temps forts de cette journée médicale, sur ces défis dans la région sahélienne, avec notamment un focus sur la malnutrition, enjeu majeur régional, lourd de conséquences pour les enfants. Mais dans Priorité Santé, on va marquer une petite pause musicale. Vous le comprenez, on est en train d'essayer de rappeler le Niger et on reprend l'antenne dès que ça marche avec Niamey.
Over waiting for you. This plane is leaving without you. Cause I am too fly for this. And I have no time for this. I'm not afraid to be honest. I'm not afraid to be on my own. And I am so fine with this.
la voix mélodieuse d'Assa pour nous faire patienter, la persévérance de Laurent Hérault qui a rappelé le professeur Yaboum 2 que l'on retrouve parce qu'on a vraiment envie d'en entendre parler de ces journées médicales au Niger et au Sahel. Je soulignais, professeur, le focus que vous allez faire sur la malnutrition avec particulièrement l'impact pour la santé pédiatrique, pour la santé des enfants.
Tout à fait. La malnutrition, ça fait près de 10, 20 ans que ça dure ici. Il y a des solutions qui existent, mais jusque-là, on n'y arrive pas. Donc, la session qui a précédé, pourquoi ça ne marche pas? Et la conclusion des intervenants, c'est de dire qu'effectivement, en plus des solutions techniques, il faut des solutions politiques. Donc là, le ministre a interpellé, il faut de faire son allocution et de répondre comment est-ce que le Niger, en tant que gouvernement, va pouvoir faire davantage, faire différemment pour régler ce problème.
On comprend bien à la fois les enjeux scientifiques et les enjeux politiques, puisque, comme on le dit souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et puis, du côté des grandes maladies qui concernent votre région, bien sûr, maladies parasitaires, le paludisme, avec après d'importants succès enregistrés au cours des dernières décennies, les résultats de la lutte contre le paludisme qui marquent le pas, avec notamment les risques liés aux parasites résistants au traitement.
Tout à fait. Vous avez commencé en disant que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Niamey, c'est une ville qui, en un an, a changé un nouvel aéroport, de nouveaux hôtels, qui montre que c'est possible d'investir dans les infrastructures. On peut également le faire dans la santé. Et notamment, ce risque avec les résistances aux antipaludéens qui effectivement arrive dans cette zone, il est important d'avoir des données, des évidences, mais surtout de voir comment est-ce que globalement on va pouvoir positionner.
Alors, une ligne de très très mauvaise qualité. Malgré tout, je tente cette dernière question importante sur la méningite à méningocoque. Toujours forte mortalité dans cette bande sahélienne. D'où l'importance, professeur, d'insister sur la vaccination.
Alors, c'est très important. D'ailleurs, il y a un vaccin qui est en cours de développement en Inde et en Afrique. Malheureusement, il ne cible que les adultes. Donc, notre discussion aujourd'hui, c'est de voir comment mettre en place un consortium pour faire des essais cliniques chez les enfants de moins de 2 ans. Il y en a 22 millions qui naissent par an dans les zones ciblées. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place rapidement afin que, dans un an ou deux, quand on a des résultats, que cette population cible puisse également avoir accès à ce vaccin qui est critique.
Merci beaucoup, professeur Yaboum 2. On s'excuse auprès des auditeurs pour la qualité assez mauvaise de la ligne. On a fait ce qu'on pouvait, mais en même temps, ça ne dépend pas complètement de nous. Merci, professeur. Je rappelle que vous êtes professeur de microbiologie. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussa Maké, Ophélie Lassène, Victor Hull et Laurent Hérault, à qui l'on dit un grand merci. Demain, la santé bucco-dentaire. Nous attendons toutes vos questions. Les dents, les gencives et on le sait, les caries. 33 1 84 22 75 75. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner où que vous soyez pendant ces 366 jours. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.